Docteur en philosophie de l'Université catholique de Louvain et docteur en théologie de l'Université de Paris, tels sont les titres de l'invité de Wagon Livre ce soir sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, je vous propose un entretien avec Jean-François Malherbe qui a publié de très nombreux ouvrages d'éthique et de philosophie. Il est actuellement titulaire de la chaire de philosophie morale de l'Université de Trento en Italie. Et l'émission de ce soir sera consacrée à Épicure et aux quatre grandes peurs mises à jour par ce philosophe de l'Antiquité, la peur de la douleur et de la souffrance, la peur de la frustration, la peur de la mort et la peur des dieux. Notre invité s'intéresse beaucoup à l'éthique des hérétiques dont il nous parlera d'ici quelques minutes. L'entretien que vous allez entendre a été enregistré à Avallon en octobre 2010, quelques jours après que le philosophe a donné une conférence sur l'éthique des hérétiques à la librairie L'Or des Étoiles de Vézelay. Petite excursion ce soir dans le monde des idées à bord de Wagon Livre. Mais tout d'abord, j'ai demandé à Jean-François Malherbe de définir ce que l'on appelle l'éthique.
Ah ben, l'éthique, c'est une pratique. D'ailleurs, quand vous disiez il y a un instant que vous êtes heureux de faire une petite excursion en ma compagnie dans le monde des idées, j'ai failli vous interrompre pour vous dire dans le monde des pratiques réfléchies. Parce que le monde des idées, c'est quelque chose de déconnecté souvent. Et les philosophes se complaisent dans le monde des idées, un monde déconnecté des pratiques sociales, de la réalité vécue tous les jours. Et pour moi, l'éthique, c'est justement une pratique réfléchie. C'est la pratique de tous les jours, dans l'ascenseur, au stationnement, derrière son bureau.
Dans le lit conjugal, vous dites on fait de l'éthique aussi.
Ah ben, on la vit. On la vit, ou on ne la vit pas, mais je veux dire, c'est ça. Donc, c'est pour moi, l'éthique, c'est ça. C'est des pratiques qui cherchent à se réfléchir pour mieux saisir leur propre sens, mieux saisir leur propre but, mieux saisir leur raison d'être et, en quelque sorte, ajuster les pratiques aux raisons d'être et les raisons d'être aux pratiques autres. Tenter de ne pas se raconter de belles histoires fausses, au fond, on pourrait dire ça. L'éthique, pour moi, je la définis, comme vous l'avez entendu, comme un travail.
Oui, travail sur soi.
Un travail sur soi avec les autres. Hein? Donc, avec d'autres qui, si possible, travaillent aussi sur eux-mêmes. Donc, c'est un travail sur soi pour tâcher de rétrécir l'écart entre ce que je dis et ce que je fais. Entre ce que je dis quand je suis sincère, hein, je veux dire, c'est pas quand, bon, quand je suis hypocrite ou que je me trouve des excuses bon marché. Mais je veux dire, voilà, je fais ceci, j'ai fait cela, puis-je être lucide sur ce que je fais? Et puis, qu'est-ce que je dis en vérité quand je parle de ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais quand j'essaye de faire ce que je dis? Je vous donne un exemple. Pour moi, qui suis partiellement, à temps partiel, enseignant, le but de mon travail d'enseignant, c'est que mes élèves deviennent aussi autonomes que possible. Enfin, un peu plus autonomes que quand je les rencontre la première fois. C'est mon but. Maintenant, il faut évidemment que ma façon d'enseigner soit congruente avec cela, soit en harmonie avec ce but que je poursuis. Si je leur enseigne de façon autoritaire l'autonomie, écoutez, on est dans la contradiction. Tandis que si je leur dis, puisque c'est des cours de philo, des cours entre guillemets, je leur dis, bon, toi Astrid ou toi Jean-Paul, quel est l'état de ton chantier philosophique? Où en es-tu dans ta réflexion personnelle? Tiens, je te propose des matériaux auxquels te confronter pour affiner, approfondir, élargir ta réflexion personnelle, pas pour penser à ta place. Vous voyez, si je me positionne comme prof de philo en pensant à la place de mes étudiants, c'est une catastrophe. par rapport au but que je prétends poursuivre. Alors, ou bien j'arrête de prétendre que je veux cultiver leur autonomie, et alors ça va, je peux enseigner de façon autoritaire, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Ou bien alors je dis non, c'est vraiment leur autonomie que je souhaite cultiver, et alors il faut que ma pratique et ce discours se rejoignent le plus possible, c'est-à-dire au fond, qu'il y ait le moins d'écart possible entre les deux, voyez-vous ? Alors, c'est ça.
Alors, acquérir l'autonomie intellectuelle, c'est renouer avec le sens étymologique de hérétique ?
Mais tout à fait, parce que le mot français hérésie et l'adjectif dérivé hérétique, qui a été substantivé aussi, donc ce mot français vient du grec ancien aérésis. On entend bien, rien qu'à le prononcer, que hérésie, aérésis, c'est le même mot. Et ce mot, aérésis, en grec ancien, désigne le fait pour quelqu'un de penser par lui-même, c'est-à-dire de penser pas nécessairement contre le groupe, parce qu'un hérétique, au sens étymologique, s'il pense comme les autres, eh bien, au moins il sait pourquoi. C'est pas juste pour être dans le ton, c'est pas juste pour être BCBG, c'est pas juste pour être politically correct, comme on dit aujourd'hui.
Bien pensant,
hein, bien vu, pour être dans la norme, considérée comme moyenne d'ailleurs, hein, pour se fondre dans la globalité, pas avoir d'histoire, etc. Non, c'est quelqu'un, un hérétique au sens étymologique, c'est quelqu'un qui pense par lui-même et qui en tire les conséquences aussi. C'est-à-dire qu'il affirme, discrètement, parce qu'inutile de susciter des conflits stériles, mais voilà. Donc, un hérétique, c'est quelqu'un qui pense par lui-même, et on ne peut jamais penser tout seul, donc ou par moment privilégié, mais je veux dire, pour penser, il faut parler, et il faut avoir un langage, et un langage, on n'est pas tout seul, on est en dialogue avec d'autres. Alors, plus je suis en dialogue avec d'autres qui, à leur tour, tentent de penser, plus je vais être, évidemment, stimulé dans ma pensée personnelle.
Donc, à l'heure actuelle, en ce début du XXIe siècle, on peut dire que, si on utilise l'adjectif hérétique au sens étymologique, il y en a qui pensent par eux-mêmes, donc des hérétiques au sens étymologique, et puis il y a un groupe ou le reste qui est dominé par des guides, par des pensées imposées, par une dictature de la bien-pensance, du politiquement correct. On en parle souvent du politiquement correct.
Écoutez, je crois qu'en chacun de nous, il y a un hérétique et quelque part et un conformiste.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui ne pensent pas du tout ? C'est délicat.
Il se pourrait qu'il y ait des gens tellement endormis par l'idéologie dominante qu'ils pensent très rarement. Pas du tout, je serais étonné, parce qu'il arrive quand même, je ne sais pas moi, un accident, un deuil, une très grosse déception, une contrariété énorme qui nous fait repenser aux choses. Mais, ou une grande joie, parce que ce n'est pas nécessairement négatif. Moi, je dirais que je connais des professionnels, par exemple, hein, des ingénieurs ou des journalistes ou des... peu importe, des gens qui ont un métier, qui exercent un métier, qui dans leur métier sont des hérétiques. C'est-à-dire, au fond, des artisans qui pensent vraiment leur artisanat, leur façon de faire, de s'insérer dans le marché, de ne pas être victime des modes. Hein, et puis qui dans leur vie personnelle ou la convivialité dans la cité sont complètement conformistes. C'est assez étrange. Et puis moi je vois des gens qui sont tout à fait conformistes au plan professionnel, parce que moi je veux pas d'histoire, c'est juste mon gagne-pain, puis je suis pas vraiment engagé dans ce que je fais professionnellement. Par contre, je vis dans un club de voile, mettons, hein, et puis je fais de la voile avec des amis, et là on essaie de faire les choses en comprenant, en y réfléchissant, etc. Donc, on est parfois comme ça cloisonné. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ne pensent pas ? Ben, j'espère que non. Mais il y a beaucoup d'instances dans notre société qui tentent de penser à notre place. Le marketing en est une. Hein. Moi, je définis parfois le marketing comme l'art de vous faire acheter la même chose qu'à tout le monde en vous faisant croire que vous êtes unique. Hein. L'art de susciter des désirs qui sont finalement... correspondent à des choses inutiles et même encombrantes. Et quelque part, si vous voulez, dans nos contemporains, moi je regrette de voir tant de gens, mais certainement pas tous, qui suivent le mouvement, au fond, sans trop se poser de questions. Puis voilà, c'est comme ça, il le faut. Puis t'es pas au goût du jour. Si t'es pas au goût du jour, ben ça va pas. Il faut être au goût du jour. Alors être au goût du jour, être dans le politically correct, comme on dit en américain aujourd'hui, ou dans la bienséance, comme on disait autrefois, hein, ben c'est ça. C'est s'éviter de penser, ou alors c'est penser très étroit. La pensée est quelque chose, c'est une pratique qui, au fur et à mesure qu'on la vit, ne peut aller qu'en s'élargissant. Au lieu d'être simplement citoyen de ma maison, je deviens citoyen de ma rue, puis citoyen de mon quartier, puis citoyen de mon village ou de ma ville, puis de mon département, puis de l'État, de la République, puis de l'Europe, et puis je deviens citoyen du monde. Et quand je deviens citoyen du monde, ben j'ai une autre conscience de ce qui se passe dans ma maison ou dans ma rue, parce que je pense global et j'agis local. Mais ça, c'est l'éthique. C'est une des formes d'éthique. C'est penser global, dans l'intérêt du bien commun, mais universel, mais avoir cette pensée globale dans une pratique locale.
Bien que le beau temps revienne, tiens, un magicien qui me revient de loin. Elle n'a pas sa pareille, elle me donne des ailes, des heures à respirer. C'est un cadeau du ciel qui vient de m'arriver. La vie est belle, le monde est beau, sous la tout est magique, je me sens bien. Je veux m'envoler, nous offrir des lendemains, tenir son corps, serrer les poings. Je vais briser tous les barreaux pour atteindre les sommets du Kilimandjaro.
Rien n'est comme hier. Je me sens bien dans mon cœur de lumière. Va l'amour dans l'air et Dieu est sur la terre. Elle peut faire des merveilles dès que le jour se lève. Elle me sort du sommeil et je prends tous mes rêves pour des réalités.
La vie est belle, le monde est beau. Je me sens bien dans ma peau.
Pour voir le ciel comme pour les Saint-Exupéry.
Viens sous mon aile, viens par ici. Toujours plus loin, encore plus haut.
Et je respire enfin, le ciel s'est éclairci, des matins d'alerte.
bien dans ma peau. Je veux m'envoler et nous offrir des lendemains. Tenir son corps serré, les poings. Laissez-moi vivre une histoire d'eau.
Contactez Radion 03 86 46 50 50. Radion.
C'était Hervé Villard qui interprétait La vie est belle, le monde est beau, et La vie est belle et le monde est beau sur votre radio locale. Vous êtes à bord de Wagon Livre, ce soir en compagnie du philosophe Jean-François Malherbe, pour une émission consacrée à Épicure et à sa philosophie. Comment Épicure perçoit-il le monde, lui qui met à jour quatre grandes peurs, Jean-François Malherbe.
Et pour vous parler de ces quatre peurs, je peux les citer tout de suite.
Oui.
Ces quatre peurs, c'est au fond la peur de la douleur et de la souffrance, la peur de la frustration, la peur de la mort et la peur des dieux. Ce sont les quatre grandes peurs dont Épicure traite. Ceci dit, pour vous exposer très brièvement les quatre remèdes à ces quatre peurs, puisque chacune des peurs pour Épicure a un remède approprié, et il est nécessaire que je dise quelques mots de son matérialisme, parce que sinon on ne comprend pas les remèdes qu'il propose. Comme vous l'avez très justement dit, pour Épicure, il n'existe que des atomes et du vide, des insécables, on pourrait dire, donc des particules qu'on ne peut pas démembrer en plus petites choses qu'elles ne le sont déjà. Donc, au sens étymologique des atomes. Atomes, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. Donc, des insécables en latin. Atomes, c'est du grec, et les insécables, c'est du latin. Bon. Si vous permettez, je vais partir de René Descartes, parce que René Descartes est bien connu ici en France. Tout le monde connaît René Descartes. Et on sait que René Descartes, il opposait le corps et l'âme. Grosso modo, la chose étendue, le corps, la chose matérielle, la matérialité, et la chose pensante, l'âme, l'esprit, qui, lui, est immatériel.
Donc, le visible et le non-visible.
Alors, oui, mais justement, là, il y aurait une précision à apporter à partir d'Épicure. Mais donc, il y aurait donc une espèce de dichotomie entre le monde de la pensée, qui serait immatériel, et le monde de la matérialité, qui serait dépourvu de pensée. Alors, Épicure, évidemment, Descartes, il est mort en 1650, si je me souviens bien. Épicure est mort en 270 avant Jésus-Christ. Il y a donc à peu près 1900 ans, quasiment deux millénaires entre la mort de ces deux penseurs. Mais si je suis parti de Descartes, j'aurais pu partir de Platon, mais il est un peu moins connu que Descartes ici. Voilà. Alors, pour Épicure, rien d'immatériel n'existe. Il ne nie pas que l'esprit existe, que l'âme existe, mais il dit que ce sont des réalités matérielles elles aussi. Tout est matériel, même l'âme est composée d'atomes. Et là, il introduit une distinction entre ce qui est matériel et qui existe, et ce qui n'existe pas, et ce qui existe pour lui n'est pas nécessairement toujours visible, et ce qui n'existe pas forcément est invisible. Il prend un exemple qui est tout à fait magnifique. Il dit, voilà, ma voisine, donc il habitait au bord de la mer, à un moment donné, ma voisine a mis sécher ses draps de lit, au bord de la mer, sur un fil tendu entre deux arbres. Et voilà, ces draps sont très lourds, parce qu'ils sont imbibés d'eau, de la lessive. Et puis voilà, elle les pend, et quelques temps après, ils sont beaucoup plus légers, et pourtant je n'ai rien vu sortir des draps. Et puis, dit-il, le vent se lève, la marée monte, et les vagues viennent lécher le bas des draps pendus sur le fil, et du coup, les draps réabsorbent de l'eau de mer. Et chose très étrange, je ne vois rien monter dans les draps, et pourtant ils deviennent plus lourds. Donc c'est que quelque chose que je n'ai pas vu a monté. Puis la mer redescend, le vent reprend, sèche de nouveau les draps, mais voilà que je trouve du sel sur les draps. Alors, il dit ne confondons pas le visible et le matériel. Il y a des choses proprement matérielles qui échappent à nos sens. C'est aussi une image que le grand astronome Eddington utilise à un moment donné. Elle est géniale. Il passait ses vacances dans un petit village de pêcheurs au bord de la mer. Et puis, en discutant avec les pêcheurs, il apprend dans la conversation que dans cette mer, où vont pêcher avec leurs filets les 10 pêcheurs, il n'y a aucun poisson de taille inférieure à 10 cm. Les pêcheurs ne prétendent qu'il n'y a aucun poisson plus petit que 10 cm. Puis il demande à voir les filets, il sort un mètre ruban, et puis il voit que les mailles des filets, les plus étroites mailles de filet, ont 10 cm. Évidemment, les pêcheurs ne vont jamais pêcher des poissons plus petits que 10 cm puisqu'ils filent à travers les mailles. Eh bien, c'est ça. Si vous voulez, il y a des choses strictement matérielles que nos sens, nos yeux, notre toucher, notre odorat, nos oreilles, nous ne parvenons pas à les saisir. Si vous avez un ordinateur portable chez vous et puis qu'il est raccordé au réseau sans fil, ben vous sentez pas, vous voyez pas, vous n'entendez rien de ce lien, et qui pourtant est matériel, entre votre ordinateur et le réseau Wi-Fi. Hein? Voilà. Eh bien, c'est ça. Les ondes radio, c'est pareil. On est à la radio ici. Ben, qui voit les ondes radio qui permettent aux auditeurs de nous entendre? C'est matériel, mais c'est pas visible. Donc, il faut bien comprendre que pour Épicure, il ne fait pas d'adéquation entre ce qui est visible et ce qui est matériel. Pour lui, il y a du matériel invisible, mais c'est néanmoins du matériel. Et toute la physique d'aujourd'hui, la physique quantique, etc., lui donne raison.
Ravage à la mouquette. un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
Radion.
Alain Souchon et Foule sentimentale. Nous évoquons la philosophie d'Épicure avec Jean-François Malherbe, docteur en philosophie et docteur en théologie. Le moment est venu de parler des peurs mises à jour par Épicure, et la première de ces peurs, c'est la peur de la douleur et de la souffrance.
La première peur qui affecte les humains est... Épicure dit que ces quatre peurs, en quelque sorte, régissent souvent le comportement de ses contemporains, hein, c'est ce qu'il observe. Il dit, voilà, les gens ont peur de la douleur et de la souffrance. Et il dit, mais au fond, c'est vrai que la douleur et la souffrance sont désagréables et ne sont pas souhaitables, mais on a les moyens de s'en libérer. Et là, il y a une gradation. Le premier moyen, dit-il, c'est quand j'éprouve une douleur, si elle n'est pas trop forte, je vais pouvoir la faire disparaître simplement par un exercice intérieur de me ressouvenir d'un événement heureux qui m'avait apporté beaucoup de plaisir ou de joie, et petit à petit, la douleur va disparaître, parce qu'elle va être surmontée par le souvenir d'une joie ou d'un plaisir antérieur qui vraiment me fait du bien. Vous pouvez essayer, ça marche. Mais ça marche avec des choses relativement bénignes. Hein? Si c'est plus fort et que ça ne marche pas avec le souvenir d'un événement heureux, eh bien, Épicure nous dit, prenez donc une aspirine. Je ne blague pas, ou qu'à moitié, parce que vous savez que l'aspirine, c'est de l'acide acétylsalicylique, essentiellement, et l'acide acétylsalicylique, comme son nom savant l'indique, c'est une décoction d'écorce de saule. Et Épicure connaissait les vertus, on connaissait de son temps déjà les vertus de la décoction d'écorce de saule. C'est un antidouleur tout à fait efficace, comme l'aspirine d'aujourd'hui qui en est par voie de synthèse, mais qui en est tout à fait l'émanation. Si l'aspirine ne suffit pas...
Alors là, on passe aux opiacés.
Alors on passe aux opiacés, comme vous l'avez très bien compris, c'est-à-dire aux vertus des graines de pavot traitées de telle et telle et telle façon, qui nous déconnectent un peu de quelque chose de trop pénible à vivre à un moment donné. Et dit-il, ultimement, si jamais même ça n'était pas assez efficace. À ce moment-là, mais peut-être qu'on jugera que la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue, et à ce moment-là, mais passez clairement à l'arsenic. C'est-à-dire...
Donc la voie du suicide.
Suicidez-vous. C'est l'auto-euthanasie, si vous voulez. Si la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, à quoi bon la maintenir,
hein? Vaste débat.
Vaste débat, vaste débat. Alors, c'est ça, sa proposition. Première peur, premier remède.
Alors, la peur de la frustration.
Alors, la peur de la frustration, ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est peut-être le point le plus actuel, encore que les anxiolytiques, etc., dans un pays comme la France, sont d'une consommation tout à fait quotidienne pour une bonne part de la population, hein. Donc, on est quand même déjà là dans le premier remède, quelque part. Bien. Alors, la frustration... Épicure distingue différents types de besoins. Il dit, voilà, pour vivre, il est nécessaire de se nourrir, il est nécessaire de boire, il est nécessaire de s'abriter des intempéries, et il est aussi tout à fait nécessaire de vivre des relations d'amitié. Ce sont les quatre, c'est encore quatre par hasard, ce sont les quatre besoins fondamentaux pour qu'un être humain puisse s'épanouir en tant qu'être humain, hein, c'est manger à sa faim, boire à sa soif, s'abriter des intempéries pour être dans le minimum d'inconfort et surtout pouvoir vivre des amitiés ou au moins une amitié forte. Alors, Épicure dit, voilà, quand j'ai faim, je mange, et si je peux faire avec un bout de pain, un bout de fromage de chèvre et un verre d'eau, eh bien, et que ça comble ma faim, c'est parfait. Si je suis de passage chez des amis et qu'ils m'offrent une tranche de gigot d'agneau avec quelques bons légumes et un verre de vin, pourquoi pas ? Je vais accueillir ça avec reconnaissance si je me sens dans l'état de le prendre et d'en profiter. Mais je ne vais pas passer ma vie, dit-il, à courir après le plus raffiné des vins de Bourgogne. Parce que le jour où je l'aurai trouvé, de deux choses l'une, ou bien je le mets dans mon cellier et je le conserve jusqu'au temps qu'il passe... Et là, ça ne vaudra plus la peine de le goûter, ce qui est ridicule. Ou bien je le consomme, et dans ce cas-là, il est aussi passé. Donc, la recherche du plus, c'est une stupidité, dit Épicure. C'est rechercher le plaisir, avec un superlatif, le plus, le plus raffiné des vins, la plus jolie des filles, le plus beau des garçons... Le coursier le plus rapide, la voiture la plus prestigieuse, chaque fois qu'il y a un « le plus », dit-il, c'est le signe qu'il s'agit de s'abstenir de chercher cela. Parce que ça veut dire qu'on cherche un plaisir, et quand on cherche le plaisir, il nous fuit. Quand on cherche le plaisir, il nous fuit. Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre qu'Épicure n'est pas ce qu'on appelle techniquement un hédoniste, c'est-à-dire Hédoné en grec, ça veut dire le plaisir. Hein. Alors, un hédoniste, c'est quelqu'un qui cherche le plaisir maximum, tout de suite, ici, maintenant, et ça presse. Nous courons beaucoup après des superlatifs. Le système de son le plus performant, le MP3 machin.
Le plus grand écran de télévision.
Le téléphone portable mobile le plus performant, qui a le meilleur appareil photo, avec le plus de pixels. Etc., etc. On est dans les « le plus », quelque chose de complètement faramineux, et ça correspond à quelque chose dans la psychologie humaine, évidemment, puisqu'on se compare aux autres, le plus, etc., on veut être mieux, ou voilà, se démarquer des autres. Et comme je disais tantôt, le marketing profite beaucoup de cela, en nous faisant croire qu'on va être unique, en nous faisant acheter la même chose qu'à tout le monde. Vous avez le choix entre une Citroën, une Peugeot, une Volkswagen ou
une Fiat,
mais vous n'avez pas le choix d'avoir une voiture. Hein? Voilà, sinon vous êtes un moins que rien. Quelqu'un qui n'a pas de voiture aujourd'hui, c'est un moins que rien ou c'est un original.
Et de toute façon, le fait de toujours vouloir le plus, la plus belle voiture, c'est toujours une façon de mieux déposséder l'autre.
C'est une façon de mieux déposséder l'autre et c'est surtout une façon de mieux se déposséder soi-même. Parce que dès que j'ai acquis la plus belle voiture, elle ne l'est plus.
Donc la frustration engendre la frustration,
c'est une fuite en avant dans le mauvais infini, si on peut dire comme ça. Et là, Épicure recommande vraiment de s'en abstenir, de s'abstenir de désirer tous les « le plus ». parce qu'il dit c'est vraiment la fuite, l'aliénation complète pour un être humain.
Alors, quel remède apporter?
Le remède, c'est la lucidité, et c'est de se dire, je me fiche pas mal d'avoir sur ma table le plus raffiné des vins de Bourgogne, ce melon qui est là, il est parfait ici, maintenant, et c'est de celui-là que je vais avoir plaisir, c'est celui-là que je vais avoir plaisir à partager avec mon ami.
Petit clin d'œil au thème de notre rendez-vous littéraire, puisque ce soir nous évoquons la philosophie épicurienne. Il y a quelques minutes, c'était, vous l'aurez reconnu, Pour le plaisir, un titre écrit par Julien Lepers pour Herbert Léonard, c'était en 1980. Le plaisir, il en est question ce soir devant nos micros avec Jean-François Malherbe qui évoque le philosophe Épicure.
Alors, il ne s'agit pas de refuser du tout le plaisir. Il s'agit de ne pas le chercher, parce que pour Épicure, et ça c'est la grande leçon qu'on pourrait retirer, le plaisir, quand on le recherche, il nous fuit. Par contre, quand on cherche une vie en harmonie, le plaisir et la récompense de cette harmonie, la sanction positive, on pourrait dire, les sanctions n'étant pas toujours négatives. Donc, sanction négative, punition, si vous voulez, et la sanction négative d'une vie en disharmonie, ben, ça va être précisément la souffrance, la douleur, le déplaisir. Alors, chaque fois que je cherche l'harmonie en moi-même, et c'est là que vous m'avez fait parler d'éthique au début, c'est une recherche d'harmonie en moi. Hein, avoir le moins d'écart possible entre ce que je dis et ce que je fais, c'est une recherche d'harmonie, c'est une recherche d'unification intérieure. Avec un ami, avec une amie, avec des gens qui me sont chers, voilà, arriver à vivre une harmonie,
une unité,
elle ne sera jamais parfaite, il ne s'agit pas de fusion, il s'agit d'une synergie, il s'agit d'une convivialité, hein, d'une symbiose, mais pas au sens symbiotique où les deux se fondent, mais au sens où on vit ensemble. Symbiose, c'est des vies accordées l'une à l'autre. Hein? Eh bien voilà, dans la mesure où on arrive à cela, où on progresse vers cela, eh bien le plaisir vient sanctionner cette recherche, nous dire oui, tu es dans le bon chemin, tu es dans le chemin de l'harmonie. Et c'est pareil avec l'environnement. Donc pour Épicure, il y a trois directions dans l'harmonie. Il y a l'harmonie avec soi-même, avec la nature en soi-même, avec sa nature profonde si vous voulez. Il y a l'harmonie avec la nature de l'autre, en face de moi, à côté de moi. Et il y a la nature avec laquelle je suis appelé à être en harmonie aussi, dans mon environnement. Et voilà, et le plaisir, c'est la sanction positive de cela.
Toujours dans l'émission Wagon Livre, ce soir avec le philosophe Jean-François Malherbe. Alors Jean-François Malherbe, évoquons maintenant donc les deux autres peurs. Donc précédemment, vous nous avez parlé de la peur de la douleur et de la souffrance selon Épicure, la peur de la frustration. Venons-en maintenant à la peur de la mort, oui. Peur bien légitime.
Ben, peur bien légitime au sens où on constate que nous avons tous peur de la mort, en effet. Mais Épicure traite la chose avec une certaine ironie. Alors, n'oublions pas que pour lui, il y a des atomes et du vide. Il n'y a rien qui ressemble à de l'esprit séparé de la matière. Et donc pour lui, lorsque quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Son corps se délite. Son corps se fragmente, enfin se défait progressivement, ça prend du temps. L'âme qui est dans le corps et qui est un principe du corps, qui est au fond le principe d'animation du corps, elle aussi est faite d'atomes qui se disjoignent les uns des autres. Si vous voulez, les molécules se défont, les organes se défont en molécules, les molécules se défont en atomes, enfin, etc. Et puis finalement, tous ces atomes sont recyclés dans l'univers, hein. Par des gaz, par toutes sortes de moyens, inutiles de s'étendre ici sur la putréfaction et compagnie. Mais voilà, hein, tous les atomes qui nous constituent viennent d'ailleurs et vont, par la nourriture, tout ça, et vont, au fond, lorsque nous mourons, retourner dans l'univers et se recombiner avec d'autres. Ce qui veut dire que pour Épicure, au fond, il résume son remède en une seule phrase. Tant que nous sommes là, la mort n'est pas là, alors pourquoi en avoir peur? Et quand elle est là, nous ne sommes plus là, pourquoi en avoir peur? Au sens où il n'y a plus personne, une fois qu'on est mort, pour être puni ou pour être récompensé, ou pour être... La crainte de la mort, c'est la crainte d'un châtiment, c'est la crainte d'une vie après... Qu'est-ce qui va se passer dans la vie après la vie? Hein? Mais pour Épicure, il n'y a pas de vie après la vie. Tout se dissout et on retourne dans l'univers. Donc, quelque part, la seule crainte, ce serait de souffrir en mourant. Mais ça, dit-il, on revient à la crainte de la douleur et là, il y a les différentes choses. Et ça nous amène à la quatrième peur, qui est la crainte des dieux. Alors, Épicure, c'est pas très clair s'il croyait qu'il existait des dieux ou pas. Mais ce qui est clair, c'est que s'il pensait que des dieux existent, les dieux sont matériels. Les dieux sont à l'univers ce que l'âme est à notre corps humain, c'est-à-dire au fond des systèmes d'atomes, très subtils, tellement subtils que nous ne les percevons pas, nous ne pouvons pas les percevoir, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là et qu'ils ne sont pas présents. Mais dit-il, qu'est-ce que c'est que Dieu, si Dieu existe? Il est un des philosophes qui juste postérieur à Aristote, au grand philosophe grec Aristote. Aristote définissait Dieu comme étant le premier moteur immobile de l'univers, donc celui qui met tout en mouvement. Et Épicure dit, si Dieu est bien ce qu'en disent les philosophes et les théologiens, eh bien les dieux sont éternels, tout-puissants, impassibles, incorruptibles, et donc ils ne s'occupent pas de nous.
Et ils sont heureux, les dieux.
Et ils sont heureux.
Joyeux.
En eux-mêmes. Et donc ils ne s'occupent pas de nous. Et d'ailleurs, s'ils s'occupaient de nous, ils auraient bien du souci, ce qui est la preuve qu'ils ne s'occupent pas de nous. Et donc pourquoi craindre l'action des dieux? Tout simplement parce que des poètes, il fait là allusion à Hésiode, à Homère, enfin donc aux grands poètes grecs de l'Antiquité, il dit, parce que les poètes nous ont raconté dans des histoires imagées, des espèces de fables, des mythologies, que les dieux agissent et provoquent des choses chez les humains, etc., et que donc il faut se ménager leur bonne grâce et tout. Mais il dit, mais c'est des enfantillages, voyons. Les dieux, s'ils existent, ils s'occupent pas de nous, ils ont autre chose à faire, et ce serait une source de souffrance et de malheur pour eux que de s'occuper des humains.
Et ce qui est formidable, c'est qu'Épicure nous encourage à imiter les dieux.
Mais voilà, alors il dit, soyons comme des dieux, vivons comme des dieux, c'est-à-dire vivons dans l'absence de douleur et de souffrance, vivons dans l'absence de frustration en ne mettant jamais le pied sur le chemin des superlatifs, vivons sans craindre de la mort, parce que tant que nous sommes là, la mort, il n'y a pas à craindre la mort, et quand la mort est là, il n'y a plus rien, plus personne pour craindre quoi que ce soit. Hein, et ne craignons pas les dieux, craignons simplement de ne pas être nous comme des dieux. Et ça, mettons-nous sur le chemin de l'éthique. Et c'est pour ça que je le considère comme un hérétique. C'est parce qu'il pense à contre-courant, il pense par lui-même dans un système matérialiste qui est extrêmement intéressant. Parce qu'au nom du dualisme comme celui de Descartes qui fait la matière d'un côté, l'esprit de l'autre, on a opprimé beaucoup de gens. Parce qu'il y a toujours alors des gens qui prétendent savoir mieux que les autres ce qu'il faut faire pour que l'esprit domine la matière. Et là, on rentre dans les dominations religieuses, les dominations écologiques, les dominations politiques, les dominations de gens qui savent mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et ça, c'est intolérable. Alors, il se peut qu'en échangeant, en dialoguant avec un ami ou avec quelqu'un de proche, j'apprenne à propos de ce qui est bon pour moi des choses que je ne savais pas. Par analogie, bien sûr, on peut s'enrichir de perceptions nouvelles, de perspectives plus subtiles. Mais au fond, il n'y a que moi qui puis en définitive dire ce qui est bon pour moi. Ce qui ne veut pas dire que je dois m'enfermer dans ce que je considère comme étant bon pour moi aujourd'hui. Dans le dialogue avec autrui, si je suis ouvert, je peux progresser dans cette conscience lucide de ce qui est bon pour moi et le chercher. Et Épicure, il a été sauvagement falsifié, puisqu'on l'a fait passer de son vivant, on le faisait passer pour un cochon, on le faisait passer pour un vulgaire hédoniste, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait des orgies à longueur de journée, qui s'envoyait des flacons de vin et des femmes ou des jeunes gens parce que ça l'amusait, alors que Épicure était quelqu'un d'assez austère, qui aimait les bonnes choses. D'ailleurs, quand il est mort, il a laissé un testament. Il n'était pas immensément riche, mais il avait quelques biens, et il a laissé ses biens à la communauté qu'il avait fondée, et avec pour mission d'utiliser ces petites richesses à deux choses. D'abord, faire chaque mois un festin agréable à sa mémoire, à lui, dans la communauté, et l'autre part, la plus grande, était réservée à faciliter l'éducation des enfants de la communauté. Parce que pour lui, l'éducation, c'est vraiment ce qui compte le plus, parce que c'est ça qui va nous permettre, dès que nous sommes enfants, d'exorciser les quatre peurs, et donc de vivre paisiblement, en harmonie avec soi, tout le temps en recherche d'une harmonie meilleure, en sachant qu'on n'arrivera jamais à la meilleure harmonie, mais l'harmonie avec soi, l'harmonie avec l'autre, dans la convivialité communautaire et l'amitié, l'harmonie aussi avec l'environnement tout autour de nous.
Alors, on va se quitter finalement sur ces recommandations et ces principes de vie épicuriens qui pourraient nous apporter l'ataraxie. Oui. Donc cette absence de troubles pour une vie plus sereine dont nous en avons tous besoin. En tout cas, merci Jean-François Malherbe ce soir d'avoir abordé un de vos hérétiques préférés. Alors il est bien évident que nous aurions pu parler de Socrate, nous aurions pu parler d'Héloïse, on aurait pu aussi parler de Maître Eckhart. Bon, autant de figures qui donneront peut-être l'occasion de nous retrouver pour d'autres émissions.
Ah, si vous le voulez, Monsieur Petit, puis je vous remercie beaucoup de vos questions.
Puisse l'émission de ce soir avec notre invité Jean-François Malherbe vous avoir donné l'envie de vous plonger un petit peu plus tard avec curiosité et bonheur dans un très grand nombre de ses livres. Je ne peux pas tous les mentionner, je ne vais en proposer que quelques-uns et de manière extrêmement arbitraire. Je mentionnerai tout d'abord aux éditions Libère « Déjouer l'interdit de penser ». Je signale également, ce sont des conférences que Jean-François Malherbe a proposées au Centre Hospitalo-Universitaire de Montpellier et qui sont regroupées sous le titre « Les ruses de la violence dans les arts du soin ». Jean-François Malherbe s'est occupé pendant presque 20 ans de bioéthique. Mentionnons également les crises de l'incertitude. Et puis, je ne peux m'empêcher de signaler un livre de notre invité, livre qui d'ailleurs a été interdit au Canada, qui est traduit depuis quelque temps en italien. Il s'agit en fait d'un ouvrage qui s'interroge sur ce qu'est un taux usuraire du point de vue de l'éthique, et ce livre a pour titre « La démocratie au risque de l'usure, l'éthique face à la violence du crédit abusif ». Jean-François Malherbe a également travaillé avec les éducateurs, d'où ce livre « Transmuter les violences en milieu scolaire ». Et je ne peux pas résister au plaisir de mentionner un superbe ouvrage, absolument délicieux, un livre totalement consacré au mandala, paru aux éditions Fides, et c'est un livre signé Jean-François Malherbe en collaboration avec l'artiste peintre Blanche Paquette. N'hésitez pas à retrouver d'autres références d'ouvrages de Jean-François Malherbe sur les sites internet nombreux qui lui sont consacrés. Quelques informations concernant les manifestations ou les rendez-vous culturel dans les jours ou semaines à venir. L'exposition Flamand Père et Fils consacrée aux bandes dessinées de Christian Flamand et de son fils Julien, c'est jusqu'au 4 février prochain et c'est à la mezzanine de la bibliothèque Jacques Lacarrière. Demain, jeudi 19 janvier à 18h30, un rendez-vous de lecture vous est proposé par l'Association des Amis de la Bibliothèque. Il s'agit de rencontrer d'autres lecteurs, d'échanger des coups de cœur. C'est à la bibliothèque Jacques Lacarrière demain à 18h30 au service du prêt adulte et l'entrée est libre. Samedi 21 janvier en matinée à 10h30 à la bibliothèque Saint-Siméon à Auxerre, des histoires pour les petites oreilles, un moment tout en album et en comptine pour les enfants de 0 à 3 ans et également pour leurs parents. Raymond Poulidor, Poupou, sera à l'espace culturel Leclerc Saint-Clément, c'est à Saint-Denis-les-Sens, tout à côté de Sens. Raymond Poulidor dédicacera ses livres le vendredi 20 janvier de 14h à 19h et le samedi 21 janvier de 10h à 19h, c'est à l'espace culturel Leclerc Saint-Clément, route de Paris à Saint-Denis-les-Sens. Samedi 21 janvier, il s'en passe des choses dans Lyon, cette fois-ci c'est à la mairie de Villiers-Benoît, Villiers-Saint-Benoît très précisément, Andrei Gratchev, qui fut le porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev pendant que le père de la perestroïka et de la glasnost était au pouvoir, sera donc présent à la mairie de Villiers pour une conférence, un conférencier exceptionnel qui racontera donc la chute de l'Union soviétique, un épisode majeur de l'histoire,
que Andreï Gratchev a vécu personnellement, et le conférencier dédicacera son dernier livre à l'issue de cette conférence. C'est à la mairie de Villiers-Saint-Benoît, donc samedi 21 janvier prochain à partir de 15h. Le samedi 21 janvier, cette fois-ci, c'est rue Joubert à la librairie Oblique à partir de 19h. Une lecture rencontre avec Julien Campredon, un jeune auteur d'une trentaine d'années qui a fait paraître plusieurs recueils de nouvelles. Le premier, tout un programme, avait pour titre « Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes » et également « L'attaque des dauphins tueurs » aux éditions Toussaint L'Ouverture. Julien Campredon sera donc à partir de 19h à la librairie Oblique rue Joubert à Auxerre. On aura l'occasion d'en parler plus longuement dans Wagon Livre, puisque nous aurons le plaisir de vous proposer un entretien avec Julien Campredon. Le samedi 21 janvier, cette fois-ci c'est un petit peu plus tard, mais c'est à 21h au bistrot du marché Place de l'Arquebuse à Auxerre, c'est au marché couvert. Eh bien, il y aura un concert du groupe Cayanne, et à l'issue de ce concert, Patrick Bénard dédicacera deux de ses livres. D'abord, son roman « Dans la tête de Robert Smith » paru aux éditions et des livres, et tout récemment, Patrick Bénard a fait paraître un recueil de chroniques. Recueil de chroniques qu'il publie régulièrement chaque samedi dans le supplément culturel de Lyon Républicaine, et ce recueil a pour titre Décibel Note. Donc rencontre avec Patrick Bénard, c'est samedi 21 janvier à 21h au bistrot du marché Place de l'Arquebuse, marché couvert à Auxerre. Et puis dimanche 22 janvier, et j'en aurai bientôt fini avec l'actualité culturelle, le dimanche 22 janvier prochain à 16h, cette fois-ci c'est du côté de Tonnerre, très précisément à la ferme de la Fosse-Dionne, Serge Moreau et le groupe Entre Nous proposent Rendez-vous Place du Tertre, un spectacle musical consacré au Montmartre des années 40 à 1960. L'entrée est libre, c'est un spectacle proposé par la bibliothèque de Tonnerre et par la librairie Plume et Images. Réservation et renseignements au 03 86 55 03 82. Donc, le spectacle de Serge Moreau et de ses acolytes, Rendez-vous Place du Tertre, ce dimanche 22 janvier à 16h. L'entrée est libre et c'est à la ferme de la Fosse-Dionne à Tonnerre. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 25 janvier, pour un entretien avec une philosophe aussi absolument délicieuse. Elle s'appelle Noëlle Châtelet. Elle est d'ailleurs, pour la petite histoire, elle est la petite sœur de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Et Noëlle Châtelet viendra nous parler de ses entretiens avec le Marquis de Sade, paru aux éditions Plomb. C'est donc mercredi prochain à partir de 21h, toujours sur votre radio locale. Radion, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Je rappelle que nos émissions sont disponibles après diffusion sur le site internet de Radion. Elles sont disponibles en podcast. N'hésitez donc pas à aller les écouter, les réécouter ou les télécharger. Et faites-le savoir autour de vous. Bonne fin de soirée en musique sur Radion. Au revoir.